bringt fremde Kulturen ins Rübeland. Kompass. Jetzt auf Kanal K.
Hallo zusammen, 20 Uhr auf Kanal K. Es ist Zeit für die Live-Sendung Fenêtre sur l'Afrique, eine afrikanische Politik- und Kultursendung. Morgen finden in Senegal die Wahlen des Präsidenten statt. Die Situation ist wegen der erneuten Kandidatur des Präsidenten Abdoulaye Wade gar nicht gut und es gibt viele kritische Stimmen. Doch der Präsident die Verfassung so geändert hat, dass er für eine dritte Amtsperiode gewählt werden könnte. Über diesen Umständen diskutieren wir mit unserem Gästen per Telefon, aber natürlich auf Französisch. Am Mikrofon begleitet euch Sylvain Amos. Viel Spaß auf Kanal K. Bonsoir Sénégal, bonsoir Togo, Gabon, Guinée, Côte d'Ivoire, Ghana, Libye, Maroc. Bienvenue à tous à l'information au cœur de l'Afrique dans l'émission Fenêtre sur l'Afrique, un programme panafricain du Radio Canal K en Suisse alémanique. Et nous parlerons ce soir avec mes invités de l'élection présidentielle à haut risque au Sénégal. Cette élection aura bel et bien lieu demain après plusieurs protestations de l'opposition sénégalaise contre la candidature du président Abdoulaye Wade qui brigue un troisième mandat. Et nous allons également faire un tour au Togo et nous recevons deux responsables du CAR et de l'ANC et deux formations politiques au Togo qui viennent de suspendre avec le gouvernement une discussion sur les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Et donc, nous allons recevoir Jean Kissi du CAR et M. Patrick Lorkson de l'ANC et tous deux seront en direct depuis Lomé. Eh bien, ils vont nous donner des explications sur la suspension de ces pourparlers avec le pouvoir en place au Togo. Et sous l'œil vigilant de Gisela Rosato, Josué Maoli et Esteban Gagnon assurent toujours la programmation musicale. Romain Koudjodi, notre collaborateur depuis Bonn, est en ligne en Allemagne. Romain, bonsoir.
Bonsoir, Sylvain Amos.
Eh bien, nous retrouverons également en direct depuis Lomé notre correspondant Fabi et qui nous fera le briefing sur l'actualité politique au Togo. Et Fenêtre sur l'Afrique est réalisé et présenté par Sylvain Amos. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au programme. Et nous démarrons tout de suite avec l'édito de Romain Koudjodi.
Wade doit partir. C'est une question de principe démocratique et de bon sens. Négocier avec des forces obscures sur des questions de principe, c'est sacrifier les principes. Les principes sont indivisibles. On les respecte ou on les sacrifie. Le moindre compromis en matière de principe, c'est sacrifier le principe. Kwame Nkrumah. Le 19 mars 2000, le Sénégal fêtait l'alternance avec un grand A. Après 40 ans de pouvoir socialiste, une transition en douceur saluée avec exemplaire, Abdoulaye Wade devenait le troisième président du Sénégal après 26 ans d'opposition au régime de Leopold Sédar Senghor et d'Abdou Diouf. 10 ans plus tard, la corruption devient un sport national, l'élection un luxe et le chômage gagne de l'ampleur. La délinquance fait tout paisiblement son chemin. Les scandales financiers et fonciers, les détournements et l'affairisme d'État sont la marque distinctive du rapport que le régime a de Wade à son actif. Le président Wade, malgré les manifestations de la rue, celle-là même qui l'a amené au pouvoir, est devenu sourd et pervers politique. Debout contre les critiques, l'homme défie le vaillant peuple. Le hic, c'est que et la communauté internationale et l'Union européenne et la Cour de justice de Fatou Bemba, malgré les morts et les blessés sacrifiés par la police sénégalaise pour le plaisir de la soif effrénée du pouvoir de Abdoulaye Wade, semblent faire oreille sourde aux jérémiades du peuple sénégalais en sacrifiant ainsi les principes. Chers amis auditeurs, ne nous leurrons pas. L'enjeu est simple. Contrairement à la Côte d'Ivoire qui a le pétrole, le gaz, le café et le cacao qui intéressent les vautours et qui ont intervenu non pas pour protéger la population ni aider à instaurer la vraie démocratie, mais plutôt favoriser encore plus davantage le pillage de l'Afrique. Le cas de la Libye qui a fait également tache d'huile pour les mêmes motivations précitées, le Sénégal malheureusement n'a rien. S'il vous plaît, je dis bien rien. Elle a seulement le riz et l'arachide. D'ailleurs, ce riz est fortement concurrencé par les Asiatiques qui abondent le marché européen. Voilà pourquoi au Sénégal, les principes démocratiques sont bafoués. Loin s'en faut, le géant de l'Afrique, l'Afrique du Sud, au-delà de sa puissance économique, doit pouvoir s'affirmer en redéfinissant une autre forme de stratégie avec le reste du continent pour imposer à l'Afrique le respect des principes, seul gage de développement social, politique et économique du continent. Croire que l'Union européenne et la France feront pression sur le moribond Wade pour le respect des droits de l'homme ou l'obligeront à respecter les principes est un leurre que certains Africains continuent encore d'entretenir. Nous ne cesserons de le dire. Le développement de l'Afrique passe inévitablement par le travail et par un éveil de conscience collective.
Les élections arrivent encore. À quoi venir Baba Tumier?
Sera encore fusillé. Waya ya ya. Ne mira pa pujua. Ne mira pa siade. Ne mira pa unyano noade. La coque mana benyamade. Ne mira pa fuade.
Ne vous y trompez pas. Les violences proviennent de la farouche volonté
de conserver le pouvoir contre la volonté du peuple. Et tant que le pouvoir sera considéré comme un héritage familial ou ethnique basé sur une force militaire, il y aura toujours des violences. J'en appelle à la conscience des dirigeants actuels et à mes frères militaires. Quel Togo voulez-vous laisser à nos enfants? Fire!
Eh bien, élection n'est pas synonyme de violence, a chanté le jeune Amen Djassissé, le jeune Togolais Amen Djassissé. Mais cette fois-ci, il ne va pas s'adresser aux Togolais, mais aux Sénégalais plutôt, et puisque demain, il y aura lieu, il y aura bel et bien lieu au Sénégal, une élection très critique. Alors, la campagne électorale pour la présidentielle s'est achevée hier vendredi à minuit au Sénégal. Le peuple est appelé donc aux urnes pour choisir donc leur nouveau dirigeant. D'après nos informations, du côté de l'opposition, la campagne s'est plutôt transformée à des manifestations de protestation contre la candidature du président sortant Wad. Alors, pour apaiser la tension, Olu Ségun Obasanjo, chef des observateurs de l'Union africaine et ancien président nigérien, a élaboré une feuille de route et qu'il a remis à l'ensemble de la classe politique sénégalaise. Alors, cette feuille de route propose que si Abdoulaye Wade gagne l'élection, il ne peut rester que 2 ans au pouvoir afin de mettre en place un gouvernement d'union nationale. Aléoutine, coordinateur du mouvement M23, avait déjà réagi hier en affirmant qu'ils vont étudier, faire des contre-propositions et apporteront également des amendements à propos de cette feuille de route. Alors, pour nous informer un peu plus sur l'atmosphère qui règne actuellement au Sénégal à la veille de cette élection très critique au Sénégal, nous prenons tout de suite en ligne en direct depuis Dakar Madia Fall. Et nous accueillons également en direct depuis Genève, ici même en Suisse, Ibrahima Guissé. Madia Fall, bonsoir.
Bonsoir.
Merci de nous éclairer en direct depuis le Sénégal à Dakar, à la veille de l'élection présidentielle à haut risque, si on peut le dire comme ça. Alors, vous êtes journaliste au journal Sud Quotidien. Alors, Madia Fall, quelle est la tension actuelle au Sénégal à la veille du scrutin présidentiel et qu'on peut qualifier de situation dangereuse pour la politique de ce pays, vu les vives tensions et protestations qui avaient eu lieu un peu partout au Sénégal après la confirmation de la candidature du président sortant Abdoulaye Wade? Madia Fall.
Oui, absolument, comme vous l'avez dit, la situation est assez tendue et tout le monde est un peu dans l'expectative, d'autant plus que justement je suis à côté à l'hôtel Radisson où le président Obasanjo, envoyé spécial de la mission conjointe Union africaine CDAO, est en train de faire le constat de son échec, de l'échec de sa médiation. Évidemment, le président Obasanjo, en débarquant à Dakar, avait d'abord pour mission une mission d'observation, et puis, bon, cette mission d'observation qui a glissé très rapidement une mission de médiation, et bien, cette médiation aujourd'hui a achoppé. Je pense que l'une des parties n'a pas voulu continuer. Et je crois qu'il est en train de tirer le constat d'échec donc de cette médiation, tout en demandant aux Sénégalais de faire prévoir la démocratie et la transparence dans le scrutin. Bon, ça c'est son constat. Maintenant, les Sénégalais sont un peu dans l'expectative, attendent demain les élections.
Oui, et Madia Fall, inévitablement, vous venez de le dire, l'élection aura bel et bien lieu demain. Et Olu Ségun Obasanjo, chef des observateurs de l'Union africaine, a remis une feuille de route à l'ensemble de la classe politique. Alors, cette feuille de route propose que si Wade arriverait à gagner l'élection, il ne peut gouverner que 2 ans, le temps de former un gouvernement national. Alors, Madia Fall, vous êtes journaliste au journal Sud Quotidien. Alors, dites-nous comment l'opposition a-t-elle réagi à cette feuille de route, Madia Fall?
Écoutez, l'opposition globalement a fait remarquer d'abord qu'il n'était pas évident que Wade gagne les élections, si elles se déroulaient normalement. Ça, c'est un. Deuxièmement, et que la question ne soit pas de gagner les élections ou de créer un gouvernement d'union nationale, mais de faire prévaloir simplement le droit. Et pour l'opposition, Wade n'a pas le droit de participer à l'élection, entendu que sa candidature n'est pas valable. Il a déjà fait deux mandats, il ne doit pas faire un troisième mandat. Voilà le premier problème. Maintenant, pour débloquer la crise, une partie de l'opposition avait dit « Ok, nous sommes d'accord pour la mesure qui est dans le gouvernement de transition, et puis pour les élections dans 6 mois, 9 mois, tout au plus dans 1 an. » Voilà les contre-propositions d'une partie de l'opposition. Il y a une autre qui dit « Il n'en est pas question, il faut qu'on aille aux élections ici et maintenant. » Et dans cette catégorie-là, on peut ranger le leader de l'Alliance pour la République, l'ancien Premier ministre, l'ancien président de l'Assemblée, et l'ancien numéro 2 du Parti démocratique sénégalais, Macky Sall.
Oui, Madia Fall reste toujours en direct avec nous depuis Dakar. Et nous avons également en ligne, en direct depuis la Suisse, ici à Genève même, Ibrahima Guissé. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Oui, merci de votre disponibilité. Ibrahima Guissé, vous avez également été des nôtres samedi dernier avec, évidemment, Aléoutine, votre collègue de la RADO. Vous êtes le représentant de la RADO, Rencontre africaine des droits de l'homme auprès des Nations Unies, ici même en Suisse. Vous êtes également, vous faites également partie de la délégation de la Commission électorale nationale autonome des Sénats de Suisse. Et alors, la diaspora sénégalaise a droit de vote, hein, celle de la Suisse dont vous faites également partie, votera probablement demain, dimanche, dans certains cantons comme Zurich, Bâle, et Genève, à Lausanne également. Alors, vous qui êtes un peu proche de cette diaspora, dites-nous concrètement ce que pensent les Sénégalais de l'étranger de la situation politique très critique de votre pays, le Sénégal.
Oui, merci Sylvain. Les Sénégalais de la diaspora de façon générale et les Sénégalais résidents en Suisse de façon particulière suivent la situation avec anxiété aussi, avec anxiété, puis avec intérêt, avec inquiétude pour les raisons que nous savons tous. Le Sénégal, effectivement, connaît une situation particulièrement difficile où personne ne pouvait effectivement donc prévoir effectivement que dans un pays où effectivement il y a une culture électorale, du moins en plus d'une culture démocratique qui est reconnue depuis des années, et que voilà, on arrive à déblocage de telle sorte où effectivement depuis donc quelques semaines, la situation est montée crescendo avec des morts, environ une dizaine. Parallèlement donc à cela, donc ici en Suisse, au niveau de la diaspora, donc je pense là aussi donc il y a des clivages qui peut-être sont des reproductions des clivages donc locaux, à savoir il faudrait aller aux élections ou pas. Et donc dans ce cadre-là, de toute façon moi en tant que c'est vrai que j'ai une double casquette. D'abord je suis effectivement, comme vous l'avez dit, donc représentant de la RADO des Nations Unies depuis plus d'une dizaine d'années. Et depuis janvier 2011, donc j'ai été donc nommé en tant que membre de la BCNA. Et de ce point de vue, au niveau de la BCNA, donc le camp des Républicains, effectivement, donc sera respecté. Et aujourd'hui même, donc nous avons envoyé donc un communiqué aux compatriotes de la diaspora d'ici pour le dire qu'effectivement, en fonction du camp des Républicains, les élections se tiendront demain, à moins que d'ici là, qu'il y ait donc une autre situation qui viendrait de Dakar pour donc redéfinir les choses. Donc dans cette optique, la diaspora donc sénégalaise de Genève, effectivement, est bien informée que les élections se tiendront demain, et principalement donc dans trois localités, à Genève, donc à Lausanne et à Zurich, avec donc des compatriotes aussi qui viendraient de certaines localités pour donc voter respectivement à Lausanne et à Zurich. Donc la situation comme ça, donc le calendrier républicain effectivement pour le moment est déroulé, et les élections se tiendront demain, et nous espérons tous que la raison prévaudra, et que voilà, que cette inquiétude donc se s'emporera et que l'on parviendra au sorti de ces élections, quel que puisse être donc le vainqueur. Je ne fais pas d'illusion, ce sera extrêmement difficile en dehors des élections, j'en suis conscient, mais j'espère seulement que d'ici la collégie sénégalaise Il voudra au lendemain de ce scrutin.
Ibrahima Guissé, nous allons libérer Madia Fall, journaliste au journal Sud Quotidien, qui est toujours en ligne, en direct depuis Sénégal. Alors, Madia Fall, en Afrique francophone, surtout, la problématique de la transparence se pose. Hein, et je parle des élections. Et croyez-vous à la transparence de ces élections au Sénégal? Alors, parlez-nous un peu de cette cour constitutionnelle qui a validé la candidature de Ouad, et cette même cour hein, qui dira ses derniers mots sur les résultats après ce scrutin présidentiel au Sénégal. Madia Fall.
Voilà, vous avez mis le doigt dessus. Le problème, c'est que cette cour, le problème, c'est qu'on a un match dont l'arbitre est refusé par tout le monde. Et c'est ça la difficulté, une cour constitutionnelle qui semble aujourd'hui, en tout cas pour bon nombre de Sénégalais, sous la botte de pouvoir. Parce qu'une cour qui a avalisé tranquillement est quelque chose qui avait fait presque l'unanimité, non seulement au sein de la classe politique, mais au sein de l'opinion de manière générale. Bon, c'est un peu cette cour-là qui est chargée demain aussi de confirmer le vote. Et c'est ça la plus grande inquiétude, c'est ça le problème. Donc, de telle sorte, et il s'y ajoute que le président sortant déclare à qui veut l'entendre, malgré toutes les difficultés, malgré les vicissitudes, malgré le fait qu'il ait rompu avec la jeunesse, malgré tous les problèmes, il dit qu'il sera président dès le premier tour. Et ça, c'est quand même le grand problème que nous avons qui fait que tous les Sénégalais sont aujourd'hui inquiets au Sénégal. Inquiets et appréhendent le vote de demain. Bon, cette inquiétude risque de se répercuter et de créer peut-être une défection de l'électorat. Donc, par conséquent, le taux de participation risque aussi d'être des enjeux importants de cette élection.
Madia Fall, merci quand même d'avoir été en direct avec nous dans Fenêtre sur l'Afrique depuis Sénégal et Dakar. Et merci également de nous éclairer sur la situation actuelle très critique et à la veille de l'élection présidentielle au Sénégal. Bonsoir et merci et bonsoir chez vous depuis Dakar au Sénégal.
Ok.
Oui, et Ibrahima Guissé est toujours avec nous en direct depuis Genève. Alors, quel commentaire faites-vous sur la transparence de l'élection présidentielle au Sénégal? Alors, Ibrahima Guissé, croyez-vous à l'impartialité de l'organe chargé de superviser ce scrutin et surtout celle de la Cour constitutionnelle sénégalaise, Ibrahima Guissé?
Oui, je crois que nous sommes là, effectivement. C'est ça que l'équation principale. Puisque on est arrivé à constater que l'élément qui a été à l'origine de la source, effectivement, de cette situation, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle, elle est toujours là, cette Cour constitutionnelle. Donc, c'est elle, effectivement, qui a validé la candidature contestée du président de la République, et c'est elle, effectivement, qui sera aussi l'arbitre, effectivement, de ces élections qui seront donc à l'issue de ces élections. C'est là toute la difficulté. Est-ce que ce facteur-là, qui a donc généré, effectivement, cette situation de tension, qui aussi a appelé, donc, dans quelques semaines, à valider le résultat. Donc, c'est pour là, donc, toute l'équation et toute la difficulté. Même ça, il est clair qu'il y a tout un ensemble d'acteurs qui, effectivement, mobilisés autour de cette question-là, pourraient quand même, comment dirais-je, négliger ou réduire tout un ensemble de facteurs qui relèvent de la fraude, qui sont en train de signaler passer par là. Et c'est pour là aussi, donc, c'est là aussi le travail de la Sénat, qui est donc un organe de contrôle et de supervision des élections. Encore, il faut être noté que le Conseil constitutionnel, qui a validé, comme j'ai dit, la candidature de M. Abdoulaye Wade, et qui sera aussi l'arbitre, effectivement, de ce match, toute la difficulté à ce niveau-là. Comment est-ce que les acteurs politiques qui sont donc en compétition pourront-ils avoir confiance à cet arbitre qui, déjà, donc, est contesté dès le départ? Et c'est là toute la difficulté donc majeure. Et on espère simplement qu'avec effectivement la présence d'autres acteurs institutionnels, d'autres acteurs de la société civile, qu'au moins est-ce qu'on parviendra à réduire le potentiel de fraude qui est annoncé par-ci et par-là. Parce que le travail à la fois de la société civile, mais aussi des acteurs politiques même, des représentants des partis politiques. Et de ce point de vue, donc on peut simplement dire que l'élection présidentielle de demain, si effectivement ces acteurs politiques, ces représentants des partis politiques qui sont plus ou moins présents dans tous les bureaux de vote, on peut penser effectivement de ce point de vue qu'on travaille de contrôle, ces prévisions peut être donc au fait et qu'on parviendrait à réduire effectivement ce potentiel de fraude qui est, qui est là et puis bon, qui est suspecté et puis, qui est aussi une réalité. Il faut le dire, on est dans le contexte africain et ces choses-là, donc je pense qu'il faut, compter avec.
Merci. Merci beaucoup, Ibrahima Guissé, d'avoir été également en direct avec nous depuis Genève. Alors, merci. Et nous vous souhaitons bon vote pour demain, ici même en Suisse.
D'accord, merci, je vous en prie.
TogoCity.com, Isilome.com, CVU-Togo. diaspora.org mo5-togo.com africainternews.com sont nos sites d'information panafricaine partenaires de Fenêtre sur Afrique. Fenêtre sur Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés.
Eh bien, nous allons faire un tour au Togo maintenant pour parler un petit peu de la politique togolaise. Et nous allons recevoir d'ici peu de temps deux responsables de l'ANC et du CAR. Mais bien avant cela, Fabi Kouassi, notre correspondante, est en ligne en direct depuis Lomé. Nous allons la prendre tout de suite pour le briefing sur l'actualité politique au Togo. Fabi Kouassi, bonsoir.
Sylvain Amos, bonsoir. Bonsoir aux auditeurs de Fenêtre sur l'Afrique.
Merci de nous accompagner en direct depuis Lomé. Alors Fabi, depuis quelques jours, il y a toute une polémique au Togo à propos du rapport de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH. Alors cette commission accuse le gouvernement togolais d'avoir falsifié son rapport. On nous apprend également que le président de la CNDH est en cavale. Alors Fabi, dites-nous un peu plus sur cette affaire.
Oui, l'État togolais pris en flagrant délit de faux et usage de faux, État voyou, méthode de voyou, gangstérisme d'État, sous forme assimilée. En tout cas, les expressions n'ont pas manqué pour qualifier cette énorme attitude rocambolesque du régime RPT, connu pour ses méthodes hors normes et hors série, qui vient, comme vous venez de le dire, de publier un faux rapport au nom de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, à qui a été justement confiée la mission de faire la lumière sur les allégations de torture dans le ténébreux dossier d'atteinte contre la sûreté de l'État. Le pouvoir qui a l'habitude de violer les lois de la République, de tromper le suffrage du peuple, a cru bon de charcuter la version initiale et authentique du rapport qui conclut que le Togo est un état de torture pour attester que tout va plutôt bien dans le pays de Formia Singhé. Le document tronqué puis est tellement du faux que les Togolais habitués aux bassesses du pouvoir n'ont pas cru, et à juste titre d'ailleurs, à la version traficotée sortie tout droit des laboratoires des bacherites du Togo. On en était là quand Kofi Kunté, président de la CNDH, qui a réussi entre-temps à fuir le territoire, comme vous venez de le préciser également, pour cause de menaces graves sur sa personne, publia sur le site de l'institution la version authentique du rapport qui confirme tout ce que les Togolais pensaient déjà, à savoir que l'Agence nationale de renseignement ANR, qui dépend directement du chef de l'État, est un véritable Guantanamo national. Et dans ce service, les citoyens togolais, tout nus, sont aspergés d'eau glacée, soumis à la diète noire, exposés au soleil pendant des heures, menottés, suspendus sur les poutres de fenêtres, soumis au peloton d'exécution, pour ne citer que ces exemples de formes de torture. Des prévenus dans le dossier Kwatsagate ont été bel et bien soumis à la torture, conclut le rapport Kofi Kunté, et les tortionnaires doivent être sanctionnés conformément aux lois de la République, recommande la CNDH. Et voilà donc Fornia Singbe qu'on passe prison en flagrant délit de faux et usage de faux, de falsification de faits, de publication de faux rapports. Le tollé est donc général. Les défenseurs de droits de l'homme au plan national comme international, l'Union européenne, le Quai d'Orsay, entre autres, demandent aux autorités togolaises de mettre en œuvre, dans les meilleurs délais d'ailleurs, les recommandations du rapport authentique. La synergie des organisations de défense des droits de l'homme du Togo appelle à cet effet à une grande marche de protestation suivie d'un sit-in le vendredi prochain. Elle demande la démission tout de suite et sans condition du gouvernement Kofi Mungbo et disent halte à la torture et non au gangstérisme d'État.
Oui, Fabi, et le FRAC est toujours dans sa logique de contestation, était toujours donc dans les rues de Lomé encore ce samedi. Alors, le gouvernement, quant à lui, continue malgré cela les réunions sur le cadre permanent de dialogue et de concertation rénovée. Alors, Fabi, jusqu'où ira le FRAC, le Front Républicain pour la Tenace, le Changement, dans ces marches de protestation si le gouvernement ne veut pas céder?
En tout cas, une chose est sûre, le FRAC ira très loin et le FRAC continuera à battre les pavés, un peu plus de mobilisation d'ailleurs pour le front ce samedi dans les rues de Lomé avec plusieurs messages à la désormais plage du changement. L'auteur du slogan « Forgne à Singe dégage » Claude Amégambi du Parti des Travailleurs après une revue des actualités de la semaine comme il le fait si bien depuis quelques temps a invité les Togolais à plus de mobilisation pour faire justement partir M. Forgne à Singe, le pacte socialiste pour le renouveau PSR de Abitissa. Le courage du peuple togolais qui reste debout dans la lutte, une lutte qui est très dure mais qui va aboutir d'une façon certaine et dans les meilleurs délais. Jean-Pierre Fabre de l'ANC, leader du FRAC, est revenu sur justement le dialogue débuté entre l'opposition parlementaire et le pouvoir RPT, ce qui n'a rien à voir avec ce qui se passe au CPDC. Dialogue suspendu par l'opposition parlementaire qui demande la libération immédiate des étudiants de CARA et l'éclaircissement par le pouvoir de la question de faux rapport de la CNDH. Une chose est sûre, Sylvain, le retour du CAR et de l'ANC au dialogue n'est pas de sitôt. Et le FRAC, comme à son habitude, soutient d'ailleurs les ODDH qui appellent à cette marche contre le gouvernement sur cette question de faux rapport de la Commission nationale des droits de l'homme. Et donc, d'un autre côté, le CPDC qui est un véritable paradoxe, et de l'autre, les discussions entre l'opposition parlementaire et au milieu, le FRAC qui continue de mettre la pression. Ainsi va le Togo.
Fabi Kouassi, merci et rendez-vous samedi prochain. Eh bien, au Togo, pendant que le Front républicain pour la tolérance et le changement conteste et manifeste toujours dans les rues de Lomé et pour un état de droit et également pour la transparence des élections au Togo après justement la réélection de Forgne à Singe en mars 2010 dernier et pendant également que la crise togolaise perdue et le CAR et l'ANC et deux formations politiques au Togo ont pris part à une nouvelle discussion et mardi 21 février dernier avec le gouvernement et le RPT parti au pouvoir. Et les deux partis à savoir le CAR et l'ANC ont aussitôt suspendu cette rencontre pour plusieurs raisons. Et nous avons pu réussir à joindre deux responsables de ces formations politiques que nous allons accueillir dans un instant dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique.
TogoCity.com, IssyLomé.com, CVU-Togo-Diaspora.org, mo5-togo.com, africinternews.com sont nos sites d'information panafricaine, partenaires de Fenêtre sur Afrique. Fenêtre sur Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés.
Oui, eh bien, comme je vous l'annonçais, nous avons en direct depuis Lomé et Patrick Lockson de l'ANC et Jean Kissi, et secrétaire national du CAR. Alors, monsieur Jean Kissi, bonsoir.
Oui, bonsoir, mon cher.
Et monsieur Patrick Lockson, bonsoir également.
Bonsoir, Amos, comment ça va?
Je vais très bien. Alors, monsieur Jean Kissi, vous êtes du CAR, Comité d'action pour le renouveau. Alors, merci de votre disponibilité à nous éclairer sur la situation politique togolaise. Alors, bienvenue dans l'émission Fenêtre sur l'Afrique. Alors, vous êtes en direct depuis Lomé. Alors, je le disais, vous êtes le secrétaire du Comité d'action pour le renouveau CAR, et une des plus grandes formations politiques au Togo. Et le mardi 21 février 2012, le CAR et l'ANC ont eu des discussions entre le gouvernement et le RPT parti au pouvoir et pendant près de 44 ans. Alors, cette discussion a été prévue dans le souci de rechercher un plus large consensus aux réformes constitutionnelles et institutionnelles. Alors, pouvez-vous nous dire pourquoi le CAR a opté pour une suspension de ce cadre de rencontre quand on sait que dans le passé, l'opposition, y compris votre parti, avait reproché au pouvoir son intention de ne pas ouvrir un vrai débat sur les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Jean Kissi Ducar.
Non, nous avons suspendu notre participation à cause de deux problèmes graves qui sont en cours dans le pays. Le premier problème qui est assez grave, alors là, qui nous a complètement ébranlé, c'est un rapport de la CNDH sur des phénomènes de torture, des gens pour obtenir des aveux au cours d'un procès. un phénomène qui n'est plus de mise dans aucun pays du monde et qui n'est accepté nulle part au monde. Et il y a eu une enquête par la Commission nationale des droits de l'homme sur ce phénomène-là, et le rapport d'enquête qui est sorti, qui a déclaré que les gens ont été torturés, cette enquête a été traficotée par le pouvoir en place. Vous imaginez le niveau, a été traficotée par le pouvoir en place. Et non seulement ça, au-delà de ça, ce qui est pire, c'est que cette affaire-là a amené à une menace sur le président de la CNDH qui a fui ce pays. Vous imaginez que si la démocratie togolaise est fille des droits de l'homme, qu'au moment où les droits de l'homme sont autant ébranlés, que la première personne à qui les populations peuvent avoir recours lorsqu'ils sont en danger, même dans les violences électorales, cette personne même est menacée et a fui. Il n'y a aucune conscience sur l'avenir, sur ce que nous allons faire. Et il n'y a aucune confiance que les tests que nous allons prendre lors de ce dialogue-là pour les élections, tout ça là, que le pouvoir puisse les accepter et ne puisse pas les traficoter demain. C'est pour ça que nous avons demandé une clarification. Donc cette suspension est en fait une pression pour faire une clarification sur ce problème de rapport de la CNDH là et que des dispositions soient prises pour que des gens soient sanctionnés ou du moins que les recommandations soient mises en œuvre. Le second problème, c'est les arrestations des étudiants. On ne peut pas, parce que nous avons tous signé dans le premier communiqué et a sanctionné la première réunion du dialogue le lundi, que nous recherchons tous l'apaisement et que nous allons tous travailler pour l'apaisement. On ne peut pas, pendant que nous recherchons l'apaisement, aller arrêter des étudiants pour les jeter en prison, tout simplement parce qu'ils ont réclamé leurs droits. C'est inadmissible. Mmh. Parce que nous avons suspendu.
Mmh. Jean Kissi, je reviens encore une fois vers vous, puisque M. Patrick Lawson est également en ligne depuis Lomé. Patrick Lawson, rebonsoir.
Bonsoir.
Alors, merci également d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes également en direct de Lomé. Vous êtes le vice-président de l'ANC, Alliance Nationale pour le Changement. Patrick Lawson, pourquoi l'ANC participe-t-elle aux nouvelles discussions avec le pouvoir malgré son refus d'appliquer l'arrêt de la CEDEAO à réintégrer vos députés à l'Assemblée nationale, Patrick Lawson?
En réalité, avant qu'on ne s'engage dans ces discussions, nous avons posé clairement une condition et qui se rapporte justement à l'affaire des 9 députés. Et nous avons donc marqué notre accord à participer à ce dialogue dans la franchise, dans la sincérité. Mais en même temps, nous avons posé comme condition que les 9 députés ayant remplacé les députés révoqués de l'Assemblée nationale soit privé de délibération et de vote sur les réformes constitutionnelles, institutionnelles et sur le cadre électoral qui seront transmis à l'Assemblée nationale par le gouvernement à l'issue des discussions. En clair, nous n'avons pas voulu paraître comme ceux qui refusent de dialoguer. Notre condition initiale était le retour des députés à l'Assemblée nationale. Mais vous n'ignorez pas que le pouvoir, refusant de comprendre l'arrêt tel qu'il a été dit, c'est-à-dire le retour des députés à partir du moment où l'arrêt dit clairement que ces 9 députés n'ont jamais démissionné, cela veut dire qu'ils devraient être toujours à l'Assemblée nationale. Ensuite, ils ont voulu faire comprendre que réparer, payer veut dire payer en réparant. Alors nous avons introduit une requête en omission de statuer. En clair, que la Cour dise en français facile au gouvernement togolais que les 9 députés n'ont jamais démissionné et que ces députés doivent retrouver leur siège. Mais pour ne pas retarder le dialogue, puisque nous approchons des législatives qui doivent être organisées dans les 30 jours avant, hein, 30 jours au moins avant avant la fin du mandat ou de la législature actuelle. Donc nous avons dit ok, nous allons discuter. Et je n'ai pas à vous cacher, nous sommes totalement en symbiose avec le CAR, nous avons échangé et nous constituons aujourd'hui l'opposition parlementaire, le CAR et l'ANC. Nous avons donc décidé d'aller à ces discussions, puisque c'est nous-mêmes qui l'avions demandé, et en nous référant au CPDC originel, c'est-à-dire issu de l'APG, puisque un gouvernement d'union nationale a été mis en place, et ce gouvernement a créé le CPDC en disant, en adoptant des conditions claires. Les conditions sont les suivantes. Où les partis qui vont prendre part au CPDC doivent être des partis qui ont des députés à l'Assemblée nationale, ou alors ils ont eu au moins 5% lors des élections législatives. Et aujourd'hui, le CP, ce qu'on appelle le CPDC rénové, ne se conforme pas du tout à cela. C'est un club d'amis qui se parle. Et nous, en tant que représentants de la nation tout entière, nous avons refusé de prendre part. Et le gouvernement compris et ayant décidé de nous inviter, de se conformer à l'esprit du CPDC originel, nous avons accepté qu'entre les partis ayant des députés à l'Assemblée nationale, on discute. Et c'est ce qui est le cas aujourd'hui.
Et Patrick Lossorno, je vous remercie pour vos explications. Je m'adresse maintenant à Jean Kissi Ducard. Alors, Jean Kissi, le motif de votre suspension serait argumenté d'une part par le climat délétère qui sévit au pays et d'autre part par le rapport de la CNDH qui fait maintenant polémique au Togo et concernant les tortures. Est-ce que avez-vous une opinion personnelle sur les deux rapports objets de différents entre le pouvoir et la CNDH? Alors quel est-tu fait le quart de cette situation, Jean Kissi?
Non, est-ce que c'est une lecture des deux rapports? Moi, je ne peux me retenir qu'au rapport et originel qui a été après traficoté par le gouvernement. Donc, dans notre suspension, a obligé le gouvernement à recevoir la CNDH, parce que et c'est ce qui est important dans notre suspension. Nous n'aurions pas suspendu que cette affaire serait partie dans la nature comme ça, que non seulement Kofi Kunté est parti, mais on aurait recherché tous ceux qui l'ont aidé à partir, et on les aurait enfermés, peut-être torturés, on ne sait pas. C'est là où c'est important, parce que quand nous avons fait cette suspension-là, ça a mis la pression sur le gouvernement, et le gouvernement a été obligé de recevoir tous les autres membres de la commission qui sont là pour venir lui dire quel est le rapport originel. Et ils ont dit carrément que le rapport originel, c'est le rapport dans lequel il a été dit clairement qu'il y a eu torture au Togo, ce qui est aboli partout dans le monde. Ça veut dire que c'est au Togo encore qu'on pratique ce genre de sauvagerie. Voilà. Et maintenant que c'est connu que c'est ce rapport-là, chaque rapport est étayé de recommandations. Et il faut que ces recommandations soient suivies. Et c'est ce que nous attendons. D'abord, la clarification que le gouvernement a fait faire par la CNDH, que le rapport originel, c'est ce rapport de 49 pages, où il est clairement dit que les gens ont été torturés et que les aveux qui ont été obtenus sous la torture. Maintenant, il y a eu un certain nombre de recommandations. Et nous voulons voir, est-ce que le pouvoir va mettre en œuvre ces recommandations? Est-ce que le pouvoir va prendre l'engagement de mettre en œuvre ces recommandations? Nous attendons aussi de voir, parce que peut-être les recommandations ne peuvent pas se mettre en œuvre en deux secondes, mais il faut l'engagement que ces recommandations vont être mises en œuvre. Voilà.
Oui, et merci également, et Jean Kissi. Alors, Patrick Lockson, vous avez suspendu les travaux pour avoir la clarification du gouvernement sur le rapport de la CNDH, c'est fait. Alors, à quand donc votre retour à cette discussion avec le pouvoir? Et cette affaire de faux, Isa, de faux concernant le rapport de la CNDH, mérite-t-il, selon vous, qu'on poursuive des discussions avec le pouvoir en place, Patrick Lockson?
Oui, vous savez, même à la fin d'une guerre, on discute toujours. Mais ce que nous ne voudrions pas, c'est qu'on se retrouve dans les quiproquos de 90, parce que nous voudrions rappeler que la même chose s'était déjà passée en 90 suite aux tortures et traitements inhumains et dégradants infligés aux étudiants, ou en tout cas à messieurs Logo Dossouvi et Oglo Agbelenko. Et à l'époque, le rapport de la CNDH avait reconnu les faits qui avaient été ensuite démentis quand M. Amadou Assouma, toujours le même, alors vice-président de la CNDH. Donc nous sommes aujourd'hui très prudents. Nous avons demandé des clarifications. Nous avons vu donc à la télé qu'à l'endroit des populations togolaises, la CNDH a précisé et a insisté que c'est le deuxième rapport, c'est-à-dire leur rapport qui est le vrai. Ça, c'est une chose de fait. Maintenant, il s'agit pour nous qui siégeons au dialogue de que le gouvernement nous réinvite et nous explique ce qui s'est réellement passé, c'est-à-dire, et conclure finalement que eux aussi, ils acceptent le deuxième rapport. Nous attendons cela d'eux. Mais il n'y avait pas que ça. En dehors de cette clarification, il y avait également le problème de la libération des étudiants. À ma connaissance, ou en tout cas la connaissance de l'ANC, les étudiants ne sont pas jusqu'à ce jour libérés. Nous avons demandé et nous n'avons pas exigé. Cela veut dire que nous avons un esprit de dialogue. Nous avons demandé que le gouvernement libère rapidement les étudiants afin que chacun de nous retrouve la quiétude pour faire le travail de dialogue qui est le nôtre. Voilà ce que nous avons demandé. Donc il reste la libération, non seulement la libération des étudiants de l'université de Kara, mais il reste au gouvernement de nous inviter pour nous donner les clarifications de qu'il voit.
Merci. Une avant-dernière question et que je vais adresser maintenant à Jean Kissi du CAR. Alors, il est vrai que la rencontre de l'ANC et du CAR avec le régime en place dans le cadre de la recherche de consensus aux réformes institutionnelles et constitutionnelles ont fait croire qu'au-delà des divergences de l'opposition, elle peut arriver un jour à s'unir pour une revendication dans l'intérêt supérieur de la nation togolaise. Alors, Jean Kissi, pourquoi cette opposition ne forme-t-elle pas un bloc pour créer une synergie face au pouvoir? C'est quand même la vie de beaucoup de Togolais et plus de pères de liberté. Jean Kissi Dukar.
Oui, avant d'aborder cette question-là, juste une information. Peut-être que le grand frère Patrick ne l'a pas encore.
Allez-y, oui.
Il a informé qu'on a libéré les étudiants de Kara. Je le dis sous réserve parce que j'ai reçu l'information il y a juste 15 minutes. Qu'ils ont été libérés, on aura le temps de le vérifier juste après l'émission.
Exactement, oui.
L'information que je viens d'apprendre.
Merci voilà. Beaucoup, oui.
Voilà. Bon, maintenant, sur une question de une entente entre opposition ou une alliance. Vous savez, nous, dans toutes nos réunions, à Boulevard, on a l'habitude de dire, chaque fois qu'on discute sur ces questions en réunion, qu'il est convaincu à l'intérieur de lui-même que ce n'est qu'une synergie des forces de l'opposition qui permettrait de venir à bout de ce pouvoir-là. Donc, ça veut dire que, dans le fond, cette question, elle est préoccupante et nous en sommes conscients. Seulement, vous savez que une entente de cette forme-là ne se décrète pas sur le bout du doigt, parce que il y a des divergences d'opinion, etc. Il y a des choses à racoler. Mais, à cette période-là, cette question est au niveau encore de souhait. Et nous y travaillons. Le travail que nous faisons pour être à ce dialogue-là, ce consensus-là, nous essayons d'y travailler. Il y a des contacts fréquents entre nous. Ne croyez pas que c'est une génération spontanée. S'il est arrivé que nos deux parties se sont prononcées pour le rapport, ce n'est pas pour le dialogue. Ce n'est pas une génération spontanée. C'est qu'il y a un travail qui se fait. Et un travail qui se fait lorsque vous avez envie de faire une alliance. Nous ne sommes pas comme des partis dictatoriaux où c'est le président dictateur général qui décide et tout le monde suit. Vous avez l'obligation d'y travailler vous-même, les responsables du parti. Vous avez l'obligation de travailler les états-majors. Vous avez l'obligation d'y travailler les comités directeurs et les comités politiques des partis. Vous avez l'obligation de travailler les fédérations pour qu'ils aillent dans ce sens-là. Et donc, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail difficile. Et nous sommes en train de le faire. Ça prendra une forme ou une autre. Seulement, il faut nous donner le temps d'y travailler et vers là. Donc, ce n'est que lorsque, du sommet jusqu'à la base, cette alliance-là est acceptée par les populations. Et c'est lorsque nous faisons les concessions qu'il faut de part et d'autre pour que cette alliance-là elle puisse ramener tout le monde que vous pouvez avoir une alliance ou une entente dans cette forme-là. Donc je crois qu'il faut nous donner le temps de faire le travail qu'il faut. Que, à la limite, même si nous n'arrivons pas à l'entente maximum que vous voulez, à la limite que nous arrivions à un motif du vendredi qui nous permettent à ne pas nous attaquer au moment des élections. L'adversaire, ce ne sont pas les rivaux. L'adversaire, c'est ceux qui sont en face. Nous, on est des rivaux parce que sur les questions politiques, on peut avoir un certain nombre de divergences, mais on est des rivaux. L'adversaire, c'est ceux qui sont sur le pouvoir depuis près de 50 ans et qui sont le pouvoir corrompu, tyrannique que nous avons devant nous. C'est l'adversaire, nous en sommes
conscients. Jean Kissi, merci. Restez toujours en ligne avec nous. Oui, et Patrick Lofson, à supposer que vos discussions soient fructueuses avec l'implication de l'Union européenne qui, visiblement, veut organiser les élections malgré les réserves des organisations des défenseurs des droits de l'homme, et même si vous obtenez tout, le pouvoir a démontré qu'il ne peut pas organiser des élections et les perdre. Alors, quelle solution idoine est dans la durée pour la crise togolaise qui perdure toujours, et Patrick Lofson de l'ANC?
Mais je crois que la première question répond en partie à cette question que vous m'adressez. L'union de l'opposition, et je suis totalement d'accord avec l'analyse faite par Jean Kissi. J'ajouterai tout simplement que ce qui compte pour nous aujourd'hui, c'est qu'il y ait, on s'entende sur un minima. Et que ce minima-là soit consigné dans une plateforme minima, excusez-moi le pléonasme, et que cela soit consigné dans une plateforme minima. Et que chacun s'engage à respecter au moins ce minima. Parce que c'est le problème que nous avons souvent eu. Quand l'un crie à Dia, l'autre qui je ne sais quoi. Donc voilà les problèmes que nous avons pour la plupart du temps. Et donc quand nous nous sommes engagés dans ce dialogue avec le parti au pouvoir, nous avons continué également à discuter avec l'Union européenne et ses membres pour leur dire que vous avez fait des recommandations et que vous devez veiller de pour votre part également à ce que ces recommandations se réalisent. La deuxième chose, une fois que l'opposition s'entendrait sur le minimum avec les organisations de la société civile, que je comprends, parce que vous savez, quand on crée un parti politique, dès qu'on le crée, sa vocation est de conquérir le pouvoir. Donc, nos objectifs sont différents. Mais aujourd'hui, face à la dictature, nous devrions nous réunir tous. Parce que si les droits de l'homme sont violés, il n'y aura pas d'élection transparente. Et s'il n'y a pas d'élection transparente, les droits de l'homme continueront à être violés. Donc nous sommes condamnés à nous entendre. Dans cette entente, nous pourrions faire face à ce régime et l'empêcher de tricher la prochaine fois. Parce qu'il s'agit là d'élections législatives et locales où les contrôles peuvent se faire localement ou par préfecture ou par commune ou par communauté rurale, etc., etc. Donc nous sommes confiants à condition que, au moins sur les conditions de transparence, cela puisse être obtenu. Le reste maintenant, cela reviendra à nous-mêmes. Comment on va s'organiser dans les bureaux de vote? Comment nous allons organiser les contrôles pour que cette fois-ci, ce qui rentre dans les urnes ne devienne pas encore une fois autre chose. Voilà ce que nous voudrions dire, sans être trop optimiste. Mais nous disons que dans la vie, quand on est pessimiste, donc on n'aurait jamais rendu service ou bien accompli le service que nous aurait demandé le tout-puissant.
Merci beaucoup, Monsieur Patrick Lofson. Je vais quand même poser la même question à Jean Kissi. Et Patrick Lofson, merci beaucoup. Et je rappelle à nos fidèles auditeurs, auditrices de Radio Canal K, ici même en Suisse, que vous êtes le vice-président de l'ANC, Alliance Nationale pour le Changement. Merci de nous avoir éclairé sur la situation actuelle, sur la situation politique actuelle du Togo. Merci encore une fois. Bonsoir, Patrick Lofson.
Merci.
Alors, monsieur Jean Kissi, et je vous pose la même question. Alors, si les discussions du cadre de l'ANC sont satisfaisantes et pour les réformes au Togo, avec bien sûr l'implication de l'Union européenne qui veut superviser les élections législatives prochaines, mais le pouvoir avait démontré plusieurs fois au Togo qu'il ne peut pas organiser des élections, les paix. Alors, quelle solution proposez-vous au cadre Jean Kissi?
Non, moi, je vois que il faut continuer de mettre la pression. C'est-à-dire que, d'abord, si les réformes que nous voulons, telles que nous les engageons, on les fait de manière consensuelle, ça veut dire que les élections doivent être mieux organisées au Togo. Nous devons voir la question du découpage, parce qu'il faut se rendre compte que si nous avons perdu les dernières élections, le CAR et l'UFC ayant eu 1 200 000 voix, se sont retrouvés avec 31 députés. Contre un parti qui a 900 000 voix, qui s'est retrouvé avec 50 députés, cette majorité mécanique-là, c'est à cause du découpage. Donc si nous réglons ce problème de découpage-là, il y a beaucoup plus de chances que ceux qui sont les plus nombreux dans les urnes, que ce soit eux qui soient majoritaires à l'Assemblée nationale. De deux, il y a un certain nombre de préfectures de circonscriptions. Vous vous rendez compte que même avec les mêmes suffrages de l'année dernière, si on s'est bien organisé et qu'on ne s'est pas combattu dans ces régions-là, on fera un meilleur score et le RPT va régresser beaucoup. En fait, moi je dis tout ça se résume en un seul mot. C'est la mobilisation massive et permanente et la vigilance des forces démocratiques au cours de tous ces processus que nous sommes en train de suivre là, qui permettra de gagner les prochaines élections et d'imposer à ce pays la marche à suivre pour sortir de la crise et amorcer le développement de ce pays. C'est en ce simple mot que ça se retrouve, la mobilisation et la vigilance permanente des forces démocratiques. C'est ça l'enjeu, c'est ça le maître mot de ce que nous allons faire dans le futur. Voilà, en fait, la société civile doit nous appuyer, c'est dans ce sens-là qu'ils doivent nous appuyer. Ça veut dire que à chaque étape de cette échéance-là, on commence par le dialogue, jusqu'aux élections elles-mêmes, jusqu'à la proclamation des résultats, jusqu'à la mise en œuvre des résultats, la société civile doit être présente à nos côtés comme un mouvement citoyen qui approuve et qui accompagne une marche démocratique vers un meilleur devenir pour ce pays.
Jean Kissi Ducar, merci également de nous éclairer sur la situation politique actuelle du Togo et sur la position du CAR par rapport à cette discussion, par rapport à cette nouvelle discussion que vous venez de suspendre avec le pouvoir. Merci et bonsoir chez vous depuis Lomé au Togo.
Merci à tous nos frères de la diaspora.
Eh bien, avant la fin de cette émission, nous vous rappelons et nous vous informons de la dernière développement sur l'élection présidentielle très critique au Sénégal. Alors, nous apprenons que la proposition de Olusegun Obasanjo, qui est le chef d'observateur de l'Union africaine. Alors, à cette proposition, le mouvement M23, le collectif d'opposants et d'organisations de la société civile, a répondu par une autre proposition. Il propose un rapport du scrutin, une transition de 9 mois dirigée par Abdoulaye Wade. Et au terme de cette transition, une élection sans la candidature de l'actuel président. Et ben les deux propositions, celle de Obasanjo et celle du mouvement M23, sont automatiquement rejetées en bloc par le président Wade. Alors selon un confrère, je viens pas téléphoner tout à l'heure, Abdoulaye Wade n'a pas apprécié des propositions de Olusegun Obasanjo, et ce qui complique encore une fois la situation au Sénégal. Eh bien, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Merci pour votre fidélité. Et nous vous donnons rendez-vous samedi prochain et pour d'autres actualités politiques au Togo.
Trauma.